Alors, l'histoire qu'on trouve dans Daniel chapitre 3, c'est une des deux histoires les mieux connues de ce livre, à côté de celle qu'on voit dans le chapitre 6. Et c'est parmi les histoires les mieux connues de toute la Bible. Il est très probable que vous l'avez déjà entendue, que vous soyez chrétien ou non. Mais avant de pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe ici, il faut qu'on revoie rapidement deux concepts importants dans la Bible. Le concept du péché et le concept de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, c'est lorsqu'on laisse autre chose prendre la place de Dieu dans notre vie. C'est quand on désigne autre chose comme digne de notre confiance ou de notre louange. Le péché, c'est synonyme de l'idolâtrie, en fait. Le péché, c'est le mot que la Bible emploie pour parler de notre rébellion contre Dieu. Alors qu'il est digne de notre vie et de notre louange en tant que notre Créateur. La Bible dit que le péché est notre nature. En tant qu'être humain, nous naissons tous avec un désir naturel d'être le Dieu de notre propre vie et de ne pas laisser Dieu lui-même être roi et seigneur de notre vie. Et donc, il faut préciser qu'il y a notre nature pécheresse, il y a notre nature pécheresse, l'état naturel de notre cœur, et puis il y a des actes pécheurs, des choses qu'on fait qui sont simplement le résultat ou la manifestation extérieure de ce qui se passe déjà en nous. De même, il y a l'idolâtrie vers laquelle nous nous penchons tous naturellement, et puis il y a des actes idolâtres, des choses qu'on fait qui montrent à l'extérieur, qui est notre vrai Dieu. Si vous lisez la Bible, vous verrez très très vite que l'idolâtrie et le péché, ce sont les deux choses que Dieu déteste le plus au monde. Parce qu'à la base, c'est la même chose. Le péché, c'est un refus de laisser Dieu être notre Dieu. Et inévitablement, si Dieu n'est pas notre Dieu, il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Alors, on devait parler de l'idolâtrie dans un premier temps pour comprendre pourquoi les événements qu'on voit dans ce chapitre se déroulent comme ils font. Et on devait parler du péché parce que c'est ainsi que l'idolâtrie se manifeste dans tous les domaines de notre vie et c'est ça le vrai sujet ici. Alors si vous étiez avec nous la semaine dernière au chapitre 2 du livre de Daniel, vous vous souviendrez que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a eu un rêve et Dieu a donné à Daniel, donc un des Hébreux exilés en Babylone, d'interpréter ce rêve. Le chapitre 2 se termine avec le roi qui loue le Dieu de Daniel et qui place Daniel et ses amis dans des rôles de grande responsabilité en Babylone. Alors le chapitre a bien terminé, c'est le genre de fin qu'on aime bien. Mais clairement, ce n'était qu'un rayon de soleil temporaire dans le cœur ténébreux de ce roi. Il n'était pas converti au Dieu d'Israël à proprement dit, il n'a pas placé en lui sa confiance. Et on le sait parce qu'au début du chapitre 3, on voit le roi construire une idole en Babylone et ordonner tout le pays à se prosterner devant l'idole à des moments précis de la journée. Alors, lisons ensemble Daniel 3 à partir du verset 1. On va lire les sept premiers versets dans un premier temps et on va lire le reste au fur et à mesure qu'on avance. Donc, Daniel 3 à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héraut cria à pleine voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation et homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors cette statue que Nebuchadnezzar a fait construire, elle est juste massive. haute de 30 mètres, large de 3 mètres, faite totalement en or. La quantité d'or que cela aurait nécessité, c'est juste énorme. Et donc la première question qui vient à nos esprits, surtout si nous lisons ce chapitre juste après le chapitre 2, c'est pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que le roi fait construire cette idole? Pourquoi gâcher tout cet or sur quelque chose comme cela? Eh bien, souvenons-nous de ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 2. Le roi fait un rêve d'une statue avec la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer et les pieds en fer et en argile. Daniel a interprété le rêve pour lui et lui a dit que chaque partie de la statue représente un royaume. La tête, c'était le royaume de Babylone, donc le royaume de Nebuchadnezzar, et chaque partie successive de la statue était un royaume qui allait venir supplanter celui d'avant. Alors, ça nous paraît assez normal, c'est ce qui arrive au royaume, après tout, il monte en puissance et puis il chute. Mais ce n'est pas ainsi que cette révélation serait restée dans la tête du roi. Il a loué Dieu à la fin du chapitre 2 pour sa révélation du mystère, mais après ça, il a quand même dû aller au lit et réfléchir à son rêve et à son interprétation pendant la nuit. Il a dû le considérer de nouveau le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après. On sait que Nebuchadnezzar n'est rien sinon avare du pouvoir. Et donc l'idée de ces royaumes futurs qui viendraient supplanter le sien n'aurait pas été facile pour lui à accepter. Et donc le roi fait bâtir essentiellement une image de ce qu'il veut de son règne, pour son règne et pour son royaume. Cette fois-ci, non seulement la tête est en or, mais toute la statue. En construisant cette statue, le roi rejette l'interprétation de Dieu de son rêve, selon laquelle Babylone sera bientôt vaincue, en faveur d'une idée plus égocentrique. Il dit, quoi qu'il arrive, mon royaume va durer. Ça avait toujours été son but, et après l'interprétation de son rêve, plutôt que de réagir avec humilité, le roi répond en réaffirmant ses désirs du pouvoir. Et bien sûr, quel est le moyen le plus efficace pour qu'un dirigeant convainque les gens de s'aligner avec sa volonté égocentrique? C'est la peur. Il dit à tout le monde, au verset 4 à 6, de se prosterner et d'adorer son idole à des moments précis de la journée, quand on entend une musique précise. Et si on refuse de le faire, on sera brûlé vif, jeté au milieu d'une fournaise ardente. Il est très important, déjà, que nous nous souvenions que toute autorité humaine n'est pas comme ça. Il y a des gens dans des positions d'autorité qui appliqueront la loi de manière juste. Tous ceux qui ont de l'autorité ne vont pas l'abuser de cette manière-là. Mais certains le feront. En tant que chrétien, serviteur de Dieu, il est possible que nous nous trouvions un jour dans une situation où on sera obligé de choisir entre obéir à Dieu et obéir à l'homme, entre la punition à la main de l'homme et la fidélité envers Dieu. C'est la situation encore dans beaucoup de pays aujourd'hui, où le christianisme est encore illégal. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure en France aujourd'hui, heureusement, mais ce type de situation existe absolument pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Alors, même si toute cette histoire avec la fournaise ardente est peut-être plus élaborée que ce qu'on a l'habitude de voir ou d'imaginer, la situation fondamentale qu'on voit dans ce chapitre n'est pas reléguée à l'Antiquité. Ces pratiques ne sont pas mortes avec les Babyloniens ou avec les Romains. Alors, pour nous qui ne sommes pas dans une telle situation aujourd'hui, mais qui pourrions peut-être l'être un jour, les questions que nous devons poser, nous poser à nous-mêmes, c'est déjà, qu'est-ce que je ferais si je me trouvais dans cette situation, dans un tel contexte? Et deuxièmement, comment est-ce que je peux me préparer pour cela tant que je suis libre de le faire? Continuons notre lecture à partir du verset 8, on va lire jusqu'au verset 18 cette fois-ci. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Après l'annonce du roi, un groupe de Babyloniens, littéralement des Chaldéens, viennent vers lui avec des nouvelles. Vous vous souvenez peut-être de la semaine dernière que les Chaldéens, ce sont les magiciens, les astrologues et les sages dont les vies étaient menacées suivant le rêve de Nebuchadnezzar. Ils n'auraient pas été très contents, très heureux de la réussite de Daniel, puisque eux-mêmes n'arrivaient pas à interpréter le rêve. Et probablement, ils cherchaient un moyen pour le discréditer depuis ce moment-là. Certains d'entre eux avaient remarqué que les amis de Daniel, appelés ici selon leur nom babylonien, donc Shadrach, Meshach et Abednego, ne se prosternaient pas pour adorer l'idole du roi. Alors les Chaldéens viennent devant le roi pour dénoncer les trois hommes. Alors, pourquoi est-ce que Daniel n'était pas accusé avec ses amis? Il est impensable que Daniel se serait prosterné devant l'idole. Il se trouvera dans une situation similaire au chapitre 6 et il va agir comme ses amis, on va voir. Il est possible qu'il était à l'étranger pour s'occuper des affaires du royaume à ce moment-là. Peut-être qu'il était devenu trop puissant pour attaquer directement après ce qu'on a vu au chapitre 2. Et cette accusation contre ses amis, c'était un moyen pour commencer à lui faire du mal, pour le discréditer un peu plus dans l'avenir. En tout cas, lorsque le roi apprend que les trois amis de Daniel refusent de se prosterner et pour adorer son idole, le roi les interroge lui-même. Au verset 13, on voit que le roi est furieux, irrité. Et déjà, le roi, c'est quelqu'un d'intimidant. Mais quand même, lorsqu'il leur demande s'ils refusent bel et bien d'obéir à sa loi, ces trois jeunes hommes répondent avec un courage incroyable, sûrement étant donné la situation. Encore une fois, lisons verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne se prosternent pas? La plupart d'entre nous, on serait tenté de commencer des négociations avec Dieu à ce moment-là, en lui donnant des excuses. Dieu, tu sais, tu vois, ce n'est qu'une statue. Nous savons que c'est toi le seul vrai Dieu. C'est pour de faux, ça ne veut rien dire. Tu le sais, Dieu, tu connais nos cœurs, tu sais que nous ne sommes pas fidèles envers le roi de Babylone, mais envers toi. Mais ces hommes, ces trois amis, ne font pas cela. Et ils refusent de le faire pour deux raisons principales. D'abord, parce qu'ils connaissaient les Écritures. Ils savent que Dieu a interdit qu'ils se prosternent devant un Dieu étranger. Ils savent qu'ils ne doivent même pas donner l'apparence de servir d'autres dieux que Dieu. Ils connaissent leur propre histoire. Ils savaient ce qui s'est passé au peuple d'Israël quand ils n'ont pas enlevé les faux dieux de Canaan, comment ces idoles ont fini par peser lourdement sur le peuple. Ces hommes connaissaient les Écritures. Alors ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant Dieu, devant l'idole. Dieu l'interdisait. Et deuxièmement, ce qu'on voit dans le texte, ils refusent de se prosterner parce qu'ils ont une confiance totalement solide en la puissance de Dieu et en l'excellence de Dieu. Leur réponse à Nebuchadnezzar est très parlant. Même face à la mort certaine, Ils ont la confiance que Dieu peut les délivrer de la mort et ils croient qu'il va le faire. Mais même si Dieu ne le fait pas, ils ne se prosterneront pas quand même. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Frères et sœurs, les versets 17 et 18 sont à mémoriser. Ces trois hommes ont une telle confiance en la puissance de Dieu qu'ils croient que Dieu peut littéralement les protéger du feu. Et non seulement ils croient que Dieu peut le faire, ils croient que Dieu va le faire. Mais ils ont aussi confiance en son excellence, c'est-à-dire ce dont Dieu est digne pour la simple raison qu'il est Dieu. Ils ont une telle confiance en son excellence que même si Dieu ne les délivre pas, il est quand même digne de leur louange. Mourir pour rester fidèle à Dieu n'est pas une perte. Dieu est aussi bon que ça. Alors, combien d'entre nous pourrions agir avec une telle détermination? Combien d'entre nous pourrions dire et dire honnêtement que mourir, c'est préférable à pécher contre Dieu? Ou prenons un exemple moins lourd. Combien d'entre nous prenons Jésus au sérieux quand il dit dans Matthieu 5, 29 à 30, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Combien d'entre nous prenons le péché aussi au sérieux que ces âmes, jusqu'au point où on considère le péché comme tellement dangereux que c'est mieux de souffrir physiquement ou même de mourir que de pécher contre Dieu. C'est le choix qui attend ces jeunes hommes, et c'est cela qu'ils font. Faites ce que vous voulez de nous, notre Dieu peut nous sauver et on croit qu'il va le faire. Mais même s'il ne le fait pas, il est quand même digne de notre louange. Commençons notre lecture de nouveau à partir du verset 19. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent au roi, certainement, roi. Il reprit, eh bien, j'aperçois 4 hommes. Dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre la loi du roi, l'ordre du roi, et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces, et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors, nous ne savons pas exactement ce à quoi la fournaise ardente ressemblait. Les seuls détails qu'on a ici, c'est que le roi pouvait voir à l'intérieur, on le voit au verset 25, et qu'il y avait une porte, on le voit au verset 26. Mais quelle que soit sa forme, c'est quand même une idée effrayante. Un four dont le seul but, c'est de tuer. Quand nos amis refusent de se prosterner, Nebuchadnezzar est fou de rage. Il ordonne que le feu soit chauffé 7 fois plus que d'habitude, tellement chaud qu'il tue les gens qui amènent les 3 amis à la porte. Le roi ordonne que les amis soient liés, on voit au verset 21, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Il veut en gros qu'ils soient alourdis de combustible, juste au cas où. Donc nos amis tombent dans le feu après que les gens qui les ont amenés meurent du feu eux-mêmes, et cela aurait dû être la fin. Étant donné la température de la fournaise, ils auraient dû être morts en quelques secondes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On voit au verset 24 que le roi qui regarde dans la fournaise, il regarde dans la fournaise et d'un seul coup, il est effrayé. Il se lève, il demande à ses conseillers, on a jeté 3 hommes dans la fournaise, non? Alors pourquoi ils ne sont pas morts déjà et c'est qui le quatrième? Verset 25, « Eh bien j'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. » Alors c'est qui le quatrième? À travers l'histoire de l'Église, le quatrième homme dans le feu a presque toujours été identifié comme Christ lui-même. Christ pré-incarnation avant qu'il prenne une forme humaine et avant qu'il vienne à terre comme Jésus de Nazareth. Vous pensez peut-être que je vais dire que c'est le contraire. Eh bien non, il y a une bonne raison pour laquelle on l'identifie ainsi. Nebuchadnezzar dit qu'il ressemble à un fils des dieux. Le roi ne comprenait sûrement pas la portée de ce qu'il disait. Mais Daniel a dû l'inclure ici parce que cela ressemble tellement à sa propre manière de décrire Christ au chapitre 7, à un changement près. Alors que le roi l'appelle quelqu'un qui ressemble à un fils des dieux, Daniel décrit Christ comme quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Vous voyez, il complète le cercle. Dieu lui-même qui viendrait en forme humaine, totalement divin et totalement humain. Donc les 3 amis sont jetés dans le feu et ils auraient dû mourir, mais là dans le feu, Dieu est avec eux. Et même pas un cheveu de leur tête n'est brûlé. Tout cela parce qu'ils ont refusé de céder à la peur et de pécher contre leur Dieu. Alors arrêtons là juste un instant. Il y a 2 ou 3 choses qu'on a besoin de garder en tête ici. Premièrement, pour les enfants, écoutez bien. Vous vous rendez compte de combien ce qui vient de se passer est juste énorme. Vous êtes déjà approché d'un feu. Vous voyez combien c'est chaud. Même si on n'y touche pas, même si on est un peu loin, notre peau ressent la chaleur du feu. Jusqu'au point où parfois on a besoin de se reculer un peu. Le feu, c'est une des choses les plus puissantes sur cette terre et détruit quasiment tout ce qu'elle touche. Ces 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ne sont pas seulement près du feu, ils sont dans le feu. Il y a du feu tout autour qui les touche. Mais parce que Jésus est avec eux, ils n'ont même pas chaud. Vous vous rendez compte de combien notre Dieu est fort, combien Jésus-Christ est fort? Il est plus fort que tout ce qui nous fait peur dans ce monde. Et il est toujours avec nous. Alors je sais que c'est une réalisation simple, mais même pour nous les adultes, on a besoin de nous en souvenir. Notre Dieu est plus fort que tous et il est toujours avec nous. Deuxième chose, prenez un instant juste pour réfléchir sur l'expérience vécue de ces 3 hommes. Comment pensez-vous qu'ils se sont souvenus de ce moment, genre des années plus tard, quand ils étaient vieux? Pensez-vous que même une seule seconde, ils ont rappelé ce moment avec regret? Pensez-vous qu'ils ont parfois hoché la tête pour dire « Mais pourquoi on n'a pas évité cette expérience affreuse ?» Bien sûr que non. Je serais prêt à parier même que ce moment est devenu le souvenir le plus précieux de leur vie. Plus précieux que leur plus grand réconfort ou leur plus grand plaisir. Ils étaient à la porte de la mort elle-même et ils avaient sûrement peur. Mais Dieu lui-même était avec eux. Alors ils étaient protégés. Comment pensez-vous que ces trois hommes regarderont à Christ au paradis? Au nouveau ciel et la nouvelle terre, nous tous qui appartenons à Christ, nous le contemplerons et nous verrons sa gloire. Et ça va nous suffire amplement. Mais en plus de cette vision parfaite de la gloire de Christ, Shadrach, Meshach et Abednego auront aussi ce souvenir de quand Christ est venu vers eux avant son incarnation, avant sa vie, sa mort et sa résurrection. Ce souvenir de quand il leur a montré sa bonté d'une manière totalement extraordinaire et pas du tout nécessaire. On ne regrette pas quelque chose comme ça. On ne cherche pas quelque chose de meilleur que cela. Le plus grand mensonge que nos désirs pécheurs nous disent lorsqu'ils nous tentent, c'est que si nous ne cédons pas à la tentation, nous allons le regretter, qu'il va nous manquer quelque chose si on ne cède pas. Mais refuser de pécher, peu importe les conséquences dans cette vie, n'est jamais un sujet de regret pour les enfants de Dieu. Jamais. On devra souffrir le feu de la tentation, oui. On devra peut-être souffrir des conséquences injustes, le rejet ou le ridicule ou la persécution parce qu'on n'a pas cédé. Mais dans tout cela, Christ est avec nous, dans le feu. Et pour le reste de l'éternité, nous nous souviendrons qu'il était là avec nous et nous ne le regretterons pas. Peu importe quel feu nous devrons traverser en conséquence. Alors revenons juste un instant à Nebuchadnezzar, au roi. Le roi voit ce qui n'arrive pas à ces trois hommes et leur a mis mystère dans le feu, genre ils ne sont pas morts et il n'en revient pas. Il appelle Shadrach, Meshach et Abednego de sortir parce que le feu est trop chaud pour qu'on s'en approche. Et quand ils sortent, il n'y a pas le moindre signe qu'ils ont été près d'un feu. S'ils transpirent, c'est à cause de tous les vêtements qu'ils portent. Ils ne sentent même pas la fumée. Alors, à ce point, on commence à voir une progression dans la manière dont le roi parle du Dieu des Israélites. Au chapitre 2, après que Daniel interprète le rêve pour lui, il a déclaré, donc chapitre 2, verset 47, C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Alors, ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il dit là. Dieu n'est pas le Dieu des dieux parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Seigneur des rois, mais clairement, Nebuchadnezzar n'a pas vraiment pesé ses mots parce que juste après, on le voit rejeter la révélation de Dieu afin de suivre ses propres ambitions, son propre ego. Il prend quand même un très grand pas dans le bon sens après la fournaise ardente. Il dit au verset 26 du chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Alors, c'est nettement mieux. Le Dieu Très-Haut, c'est ainsi que le peuple de Dieu font souvent référence à lui. Alors, il loue Dieu d'une meilleure manière, et c'est bien. Mais clairement, il n'a toujours pas totalement compris avec qui il a affaire, parce qu'on voit au verset 29, il dit, Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Alors, ce qu'il dit à la fin est absolument vrai. Il dit une bonne chose. Il reconnaît la puissance de Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Mais il amène bien trop loin. Parce que, en fait, on va voir le parce que dimanche prochain. Dieu n'a pas terminé son œuvre en le roi. C'est ça que j'essaie de dire. Quand il aura terminé l'œuvre en lui, le roi va dire exactement la bonne chose de la bonne manière. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. Alors, frères et sœurs, cette histoire devrait être un vrai moment de réveil pour nous. Si vous avez grandi dans l'Église, vous avez probablement entendu cette histoire depuis votre enfance, depuis toute votre vie. Si vous êtes comme moi, vous aurez le souvenir d'avoir entendu cette histoire en tant que gamin. et probablement d'avoir adoré l'aspect romantique, de prendre position pour Dieu de manière énorme, comme on voit ici. C'est comme dans un film, comme dans un film où on voit quelqu'un faire des sacrifices pour ses convictions. Peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu me fais, même si tu me tues, je reste fidèle à mes convictions, à mes principes. Nous aimons imaginer que si nous étions dans cette même situation, nous ferions la même chose pour Dieu que ces trois hommes ont fait. Mais si c'est possible, on doit essayer de mettre de côté nos idées enfantines de cette histoire, parce que ce passage nous pousse à confronter la réalité de manière assez brutale. Nous aimons l'idée de prendre position pour Dieu de manière gigantesque. On aime l'idée de faire des choses vraiment difficiles et admirables pour lui. Mais bien souvent, nous n'arrivons même pas à rester fidèles dans les petites choses qu'il nous donne de faire. Beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à faire quelque chose qui est aussi simple que ne pas cliquer sur un lien qui nous montrera quelque chose que Dieu nous dit de ne pas regarder pour notre bien. Alors, je ne veux vraiment pas décourager qui que ce soit, mais soyons honnêtes quand même. Si vous refusez d'obéir à Dieu dans les petites choses, vous refuserez presque certainement de lui obéir dans les grandes choses aussi. Comme Jésus dit dans Matthieu 25, 21, c'est lorsque nous sommes fidèles en peu de choses qu'il nous confie des choses plus grandes. Ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'étaient pas parfaits, mais clairement, ils s'étaient habitués à obéir à Dieu de manière ordinaire, au jour le jour, pas seulement dans les grandes positions qu'ils pouvaient prendre, mais aussi dans les petites choses auxquelles nous ne pensons même pas la plupart du temps. Et on l'a déjà vu dans ce livre. Leur obéissance à Dieu s'applique même à leur alimentation. Les pousse à refuser même des choses que Dieu n'interdit pas, comme le vin, afin de pouvoir rester visiblement à part, comme faisant partie du peuple de Dieu. Et on le voit ici aussi. Ça aurait été tellement facile pour eux de se prosterner. On pourrait dire que c'est une petite chose. Ils auraient pu se prosterner les doigts croisés derrière le dos, et puis revenir à Dieu et dire: Seigneur, tu comprends, c'était pas vrai, on faisait ça pour ne pas mourir, ils menacent nos vies quand même. Nous n'obéirons pas à Dieu dans les grandes choses que si nous avons appris à lui obéir dans les petites choses. Nous ne resterons fidèles dans les moments difficiles que si l'obéissance est devenue notre mode de fonctionnement ordinaire, la manière dont nous nous comportons tout le temps, de manière générale. Alors du coup, comment est-ce que ces trois hommes ont pu arriver à ce point, où non seulement ils étaient capables de faire ce qu'ils ont fait, mais de le faire sans hésitation? Souvenons-nous, ils sont encore jeunes. On a vu ça il y a quelques semaines. Ils étaient ados quand ils sont arrivés en Babylone, ils restent jeunes. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à une telle maturité, qu'ils sont restés fidèles malgré la pire menace qu'on pourrait leur lancer? C'est parce qu'avec le temps, ils avaient fermement saisi l'excellence de Dieu et la puissance de Dieu. On a déjà vu cela, versets 17 et 18. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Voilà sa puissance. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Voilà son excellence. Dieu peut, et nous croyons que Dieu va nous délivrer de ton pouvoir. Mais même s'il ne le fait pas, il est quand même digne de notre louange. Si on doit choisir entre le péché et la mort est préférable. Frères et sœurs, nous apprenons à obéir à Dieu dans les petites et dans les grandes choses, au fur et à mesure qu'on grandit dans notre compréhension de combien Dieu est puissant et de combien il est bon. Dieu est assez puissant pour nous donner le pouvoir de dire non au péché lorsque nous sommes tentés. 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. voici une des vérités les plus difficiles à croire, surtout si on est, si on est jeune chrétien au début. Puisque nous sommes en Christ, nous pouvons dire non. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que nous sommes tentés de faire. Christ nous a libérés du péché. Alors nous ne sommes plus ses esclaves. On n'est plus esclaves du péché. On n'est pas obligé de dire non. De dire oui, pardon. Dans chaque tentation, Dieu nous donne sa propre puissance pour la refuser. Il est assez puissant pour nous rendre capables de résister à la tentation comme il a fait pour ces jeunes hommes. Et il est assez bon pour nous donner quelque chose de meilleur que le péché. Hébreux 24-26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Frères et sœurs, quoi que nous voulions, Christ est meilleur. Quel que soit l'objet de notre désir, Christ est meilleur. Et si nous doutons de cela même un instant, on n'a qu'à nous souvenir de ce qu'il a souffert pour nous afin de nous libérer du péché. Afin de nous libérer de l'esclavage à nos désirs pécheurs, Dieu a pris une nature humaine. Il a vécu notre vie et subi notre mort. Il a pris notre péché, l'a mis à mort à la croix avec lui, afin que nous puissions le mettre à mort tous les jours. Alors, c'est sûr, résister à la tentation sera difficile, ce sera douloureux. La pression de la tentation ne pèse pas sur nos épaules, elle boue de l'intérieur. Elle grandit avec le temps comme dans un autocuiseur, jusqu'au point où on a l'impression que si on n'y cède pas, on va exploser. Mais voici la chose qu'on doit garder en tête. Christ sait tout cela. Il le sait parce qu'il a vécu. Il a résisté à chaque tentation jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit la tentation qui cède. Alors, puisqu'il sait ce que c'est, il peut être avec nous dans le feu. Hébreux 2, verset 18. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu sans aucune blessure et n'ont sûrement jamais regretté passer par cette expérience, nous aussi, nous allons chérir le souvenir de Christ, présent avec nous dans le feu. On se souviendra de la tentation, oui. On se souviendra de la lutte, du fait que c'était difficile. Mais on se souviendra aussi de ce qu'il était avec nous dans la lutte, qui nous donnait la force d'y résister sans parfois même qu'on s'en rende compte. Et on se souviendra du pouvoir qu'il nous a donné d'y résister. Et on va chérir ces souvenirs pendant toute l'éternité. Frères et sœurs, le but de ce livre n'est pas seulement de nous impressionner de l'excellence et de la puissance de Dieu. Ces réalités, profondément ancrées dans nos cœurs, remplissent le peuple de Dieu d'une confiance et d'une joie qui nous donne de réaliser que nous n'avons plus besoin du péché et que nous n'avons plus envie de pécher, parce que maintenant nous avons quelque chose, ou plutôt quelqu'un, d'infiniment mieux. Ce livre nous donne d'avoir une vision tellement grande de l'excellence et de la puissance de Dieu que nous n'avons pas peur de dire non au péché, peu importe ce que cela nous coûte dans cette vie. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour le pouvoir que tu as donné à ces trois jeunes hommes, à Shadrach, à Meshach et à Abednego, nos frères, de résister à la tentation de résister à la tentation de céder à l'ordre du roi et de se prosterner devant son idole. Merci, Père, de ce témoignage de leur courage, le courage que tu leur as donné, de cette confiance qu'ils avaient en qui tu étais, en ton excellence et en ta puissance. Je prie, Père, que tu nous donnes cette même puissance, cette même vision de ton excellence, cette même confiance en ton pouvoir et en ta bonté, afin que nous puissions faire comme nos frères. Afin que nous puissions résister à toutes les tentations qui viennent vers nous, qu'elles soient grandes ou petites, et ainsi que nous puissions avoir et chérir le souvenir de tous ces moments où tu as été là avec nous dans le feu et que tu nous protégeais. Merci Père de la réalité que ce qui s'est passé pour ces trois hommes, c'est l'histoire de la vie de chaque chrétien, de chacun de tes enfants. Merci Père de nous avoir montré une telle bonté que de nous donner à nous tous de pouvoir partager des expériences comme celle-ci. Merci Père pour ton Fils, merci pour ton Esprit qui nous guide. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.